107.9.
Nous sommes le lundi 28 février. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des avions de combat livrés à l'Ukraine. Réponse européenne à la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. On verra cela avec notre correspondante à Bruxelles. Nous serons aussi à Kiev dans ce journal où le couvre-feu du week-end se lève. Et avec les réfugiés qui affluent en Roumanie. Et puis on parlera de la situation en Ukraine dans le grand entretien avec la présidente de la République de Géorgie, Salomé Zourabichvili. Notre invitée ce matin, vos questions dès maintenant pour elle au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Les autres titres, Anaïs.
La fin du masque dans les théâtres, les stades, les restaurants. Aujourd'hui, Paris risqué pour les plus fragiles. Et le rapport très attendu du GIEC ce midi. Comment s'adapter au cataclysme climatique? C'est vital pour l'humanité.
Et l'invité d'Inter à 7h50 avec vous, Alexandra.
C'est le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qu'on a déjà entendu. Compréhensible, voire laudateur au sujet de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, réponse forte de Bruxelles. Quelle est l'analyse de cet eurosceptique? La réponse, Jérôme, à 7h50.
À tout à l'heure.
France Inter. C'est un moment qui restera dans les livres d'histoire. 70 ans de construction européenne basée sur la paix. Et voilà l'Europe qui fournit des armes d'attaque. Décision historique hier soulignée par la présidente de la Commission. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Alors pour la première fois, l'Union européenne va acheter et livrer des armes à un pays victime d'une guerre.
Oui, c'est un vrai changement de doctrine. Les Européens vont débloquer collectivement 450 millions d'euros pour acheter et livrer des armes létales à l'Ukraine, parmi lesquelles il pourrait bien y avoir donc des avions de combat. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, dit en avoir besoin. Il a besoin d'appareils que les Ukrainiens peuvent piloter. Or, certains États membres en disposent. C'est la Pologne qui va réceptionner sur son sol les livraisons. Les 27 ministres de la Défense vont se concerter aujourd'hui pour l'organiser. Pas question d'acheminer les convois jusqu'en Ukraine et prendre évidemment le risque d'être bombardé. Avant même cette annonce, 17 États avaient déjà répondu à l'appel à l'aide de l'Ukraine. Des milliers de lance-roquettes, missiles sol-air, mitrailleuses et munitions sont déjà en cours d'acheminement.
Et Angélique, des mesures prises à l'unanimité et en temps record.
Oui, c'est l'exploit du siècle, dit même un haut diplomate, qui l'explique d'abord par le souci politique très fort et finalement récent de montrer au monde un front très uni, mais aussi par la crainte d'une guerre qui s'étendrait en Europe. Le hasard fait bien les choses, sourit aussi un diplomate non français, car c'est la France qui préside les réunions des ambassadeurs et du Conseil des ministres, comme en 2008 avec la Géorgie, membre du G7, du Conseil de sécurité. Elle est en première ligne pour coordonner la riposte avec les alliés. C'est aussi un grand pays fondateur dont les fonctionnaires bruxellois ici sont aguerris aux négociations très difficiles. Mais la Commission a aussi joué un rôle majeur de pilotage de ces décisions avec des propositions présentées et ficelées ces derniers jours à une vitesse inédite et bien souvent saluée.
Angélique Bouin, merci depuis Bruxelles. En direct, autres sanctions européennes, la fermeture de l'espace aérien aux avions russes, l'interdiction aussi de toute transaction avec la banque centrale russe. Premier effet ce matin, le rouble russe plonge de près de 30% par rapport au dollar dans les premiers échanges internationaux en Asie. Et puis l'une des filiales de l'une des plus grandes banques russes, Sberbank, sans doute bientôt ou déjà en faillite, trop de retraits effectués. En Ukraine, le jour se lève et Kiev sort en ce moment de son interminable couvre-feu du week-end. Omar Ouaman, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Bonjour.
Bonjour Anaïs.
Quelle est la situation ce matin ?
Alors la situation est relativement calme après des explosions puissantes qui ont retenti il y a plus d'une heure. Des habitants évoquent des frappes à l'ouest de la capitale et décrivent des colonnes de fumée noire. On ne connaît évidemment pas les cibles visées. Ce que l'on sait, c'est que l'armée russe tente depuis jeudi de percer les défenses ukrainiennes qui encerclent la ville. Les autorités de Kiev rapportent que plusieurs assauts sur la capitale ont été repoussés cette nuit, alors que Moscou a massé des dizaines de milliers de soldats autour de la ville. Un long convoi de 5 km de véhicules blindés, de transport de troupes, d'équipements a été repéré au nord de Kiev et se dirige vers la capitale. Le président ukrainien, qui est toujours dans la ville, a déclaré que les prochaines 24 heures seront déterminantes, alors que les habitants vont pouvoir rentrer chez eux à partir de maintenant. Après, vous l'avez dit, un très long couvre-feu depuis samedi 17h. Beaucoup ont passé ces dernières 39 heures dans des abris anti-bombardement, notamment dans le métro de la capitale qui est passé en mode refuge, un couvre-feu décrété pour traquer les cellules dormantes russes présentes dans la capitale, des saboteurs qui préparent l'avancée des forces de Moscou en détruisant des cibles militaires ukrainiennes. La capitale était donc déserte, une ville fantôme quadrillée par les forces ukrainiennes.
Omar Waman en direct de Kiev avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro sur le terrain. L'armée russe avance, deux grandes villes du sud ont été encerclées. Les Ukrainiens qu'ils peuvent ont quitté leur maison pour s'installer dans des endroits jugés plus sûrs, mais le temps ne semble pour eux pas s'écouler normalement. Reportage Vanessa Descoureau.
Elena n'est qu'à quelques kilomètres de nous, mais le couvre-feu est total, strict. Quelques balades à pied autour des maisons sont autorisées, mais pas les trajets en voiture. Nous appelons donc cette professeure d'économie de 47 ans.
Pour l'instant, ça va. Bien, et vous ?
Elle a quitté Kiev et ses bombardements pour la maison familiale toute proche de la capitale. Mais là encore, les frappes aériennes ne sont jamais très loin.
On a déjà 4e jour de la guerre, mais pour nous, c'est peut-être, je sais pas, 1 mois, 6 mois de tout ça. La journée et la nuit, c'est très très long. Pour la nuit, pour moi, c'est plus difficile.
Elena ne sait pas combien de temps elle peut tenir avec ses provisions, mais elle s'inquiète déjà de voir les rayons des supermarchés s'appauvrir. Chaque jour qui passe rend sa vie plus dure, mais aussi celle de ses parents âgés.
Même mon père, il pleure de temps en temps, mais quand même, pour notre morale, c'est difficile. La Russie, c'est le premier terroriste dans le monde. Vous devez savoir ça.
Dans la famille d'Elena, les hommes n'ont pas pris les armes, contrairement à certains de ses étudiants. Mais celui qu'elle appelle le grand mec, c'est son président, Volodymyr Zelensky.
Vanessa Descoureau à Kiev avec Marc Garvenès. On la retrouvera en direct dans le journal de 7h30. Comment la situation va-t-elle évoluer? Nul ne le sait. Pas de précision sur d'éventuels pourparlers évoqués hier. Au 5e jour de guerre, un premier oligarque russe s'exprime, lui, sur le conflit. Mikhail Fridzman, qui a fait fortune dans les hydrocarbures et la banque, né en Ukraine où ses parents vivent toujours, veut voir, je cite, cette effusion de sang finir. Sur la scène mondiale, la Russie, qui a brandi la menace nucléaire hier, va faire face à la communauté internationale. Convocation cet après-midi des 193 pays des Nations Unies en assemblée générale extraordinaire, événement rarissime de la diplomatie mondiale. Le président américain annonce en parallèle une conférence téléphonique cet après-midi avec ses alliés. Et en France, un conseil de défense aura lieu ce matin à 11h. La ville de Paris, de son côté, a mis en place une cellule de crise pour les Ukrainiens bloqués à Paris ou qui voudraient y trouver refuge, car ils pourraient être des millions à fuir leur pays. Déjà près de 400 000 habitants se sont rués dans les pays voisins. En Roumanie, des tentes ont été installées dans un stade, un hôtel de luxe ouvert gratuitement aux déplacés. Et Mathilde Dehimi, des villages entiers mobilisés malgré la barrière de la langue.
C'est une maison cossue à la sortie du bourg de Dumbraven. Dans le salon de Mikhaïl, deux familles ukrainiennes arrivaient ce matin, dont celle de Vadim, handicapé.
On est resté deux nuits à la frontière. On est enfin tranquille et bien reçu ici.
Pour leur hôte, Violetta, cet accueil était naturel.
J'ai 3 enfants, dont 2 à la faculté de l'âge. Comme la maison est vide, on a vraiment voulu aider et s'impliquer.
Et ils ne sont pas les seuls à ouvrir leurs portes. La pension rurale de Sorin accueille 20 personnes.
Peuvent rester longtemps, jusqu'à ce que tout soit résolu.
Les enfants ukrainiens ont sorti tous les jouets des tiroirs, mais les sourires des adultes s'effacent. Elle, c'est Lilia. Il y a une demi-heure, elle a appris qu'il y avait des dégâts dans sa ville. Tcherkovsky, au sud-est de Kiev. Sur son téléphone, la photo d'un débris d'avion abattu, dit Lilia, par les défenses ukrainiennes. Lilia s'inquiète pour sa famille sur place, mais aussi pour tous les pays d'Europe face à Poutine. C'est leur premier jour de réfugiés. Ils ne savent pas encore où ils iront demain.
Et hier, les ministres européens de l'Intérieur ont discuté d'une protection temporaire pour les Ukrainiens. Enfin, le sport et le football peuvent-ils faire bouger les lignes? Après plusieurs jours de silence, la FIFA impose à la Russie, comme l'UEFA, de concourir sans drapeau et sans hymne et de disputer ses matchs à domicile sur terrain neutre, bien en deçà des attentes, alors que certains plaident pour son exclusion du Mondial 2022.
7h09 sur Inter. En France, c'est aujourd'hui la fin du masque obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal.
vaccinale.
Comme les restaurants, les stades ou les théâtres, l'épidémie continue de refluer. Moins de 2500 patients en soins intensifs, mais toujours plus de 25 000 hospitalisations Covid. Alors dans ce contexte, est-ce bien raisonnable, Sophie Bécherel, d'ôter le masque dans un espace clos?
Actuellement, l'épidémie continue de refluer à vitesse rapide, quasiment aussi vite qu'elle avait flambé. Toutefois, l'apparition du sous-variant BA2 d'Omicron, encore plus contagieux que le précédent, a ralenti cette décroissance. De 40% par semaine environ, on est passé à 30%. Le R effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine, est actuellement de 0,66. Le fait d'enlever le masque en intérieur va en toute logique faire remonter ce paramètre. Toute la question est de savoir à quel rythme et jusqu'où, sans parler du taux d'incidence encore très élevé, à plus de 650 pour 100 000 habitants. Voilà pourquoi Dominique Costagliola, épidémiologiste à l'Inserm, juge au micro de Solène Lehen qu'il est trop tôt pour ôter le masque.
L'incidence est encore assez élevée. Et donc, quand on est dans une salle, la probabilité pour qu'au moins une personne soit infectée, même si elle n'a pas de symptômes, même si toutes les personnes sont vaccinées, n'est pas négligeable. Par conséquent, enlever le masque, ça veut dire qu'on enlève la protection contre l'infection. Et bien sûr, ça veut dire qu'on condamne les gens les plus fragiles à l'auto-isolement.
Par ailleurs, le taux de vaccination, pourtant élevé à 79%, ne monte plus. L'efficacité vaccinale baisse avec le temps et les cas de réinfection avec Omicron existent pour les personnes qui ont déjà eu Delta ou la souche originelle. C'est donc bien un cocktail de mesures qui permet de maintenir le virus à distance. Rien n'empêche donc pour ceux qui le souhaitent de conserver son masque.
Et précision à retrouver sur franceinter.fr. La campagne présidentielle, on connaîtra lundi prochain la liste des candidats. A priori, ça passera pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. En revanche, ce sera sans doute sans Philippe Poutou et Christiane Taubira. Précision à 7h30. L'Institut Montaigne a annoncé tard hier soir la démission de son directeur Laurent Bigorgne, économiste en vue. Il est convoqué le 10 mars devant le tribunal pour avoir drogué à son insu une collaboratrice lors d'une soirée.
Une bombe de pluie sur l'Australie.
Orage et pluies intenses sans précédent depuis des décennies et des dizaines de milliers d'Australiens priés d'évacuer leur maison dans l'est du pays. Comment adapter l'humanité aux impacts du changement climatique? Les experts du GIEC rendent un nouveau rapport ce midi à destination des décideurs, car quel que soit le scénario, Sandy Dauphin, il faut se préparer.
Comment adapter le système de santé aux canicules, rafraîchir les villes l'été, protéger les habitations sur le littoral? Comment aider les agriculteurs face au gel précoce et à la sécheresse? Ou encore adapter la stratégie des pompiers face au risque de feux de forêt qui va petit à petit remonter vers le nord? Il existe une palette de solutions, explique Vivian Despouès de l'Institut de l'économie pour le climat, une association experte en questions climatiques.
Ça peut être dans la manière dont on construit, avoir plus de ventilation, plus de végétation, avoir des espaces où il fait frais l'été, prévoir qu'il y a un risque d'inondation plus grand et donc on laisse de la place à l'eau pour s'écouler. Ça peut être adapter nos forêts pour avoir des forêts plus diverses qui font que s'il y a des sécheresses, elles ont plus de chances de survivre, plus de résilience.
De plus en plus d'actions concrètes sont menées en France pour s'adapter au changement climatique, mais elles sont insuffisantes, estime l'Institut de l'économie pour le climat.
On rénove des villes sans prendre en compte le fait qu'il va faire beaucoup plus chaud. Il y a une nouvelle réglementation thermique pour les logements dans laquelle on a pris une hypothèse pour être confortable quand il fait très chaud en été. C'est la canicule de 2003 qui était l'extrême, le plus chaud qu'on pourrait avoir. Or, la canicule de 2003 aujourd'hui, c'est probablement d'ores et déjà une hypothèse obsolète, pourrait devenir une normale pour le climat futur.
Les experts le répètent, anticiper les effets du réchauffement climatique coûtera beaucoup moins cher que de réparer les dégâts.
Et ce rapport du GIEC, eh bien, on en parle aussi cet après-midi. Ce sera à 14h dans la Terre au Carré, Jérôme.
Merci Anaïs Feugat pour ce journal. Le zoom dans 3 minutes sur l'île Dieu. Comment vivre avec le fantôme de Philippe Pétain.